Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
On se rappelle des rassemblements familiales d'antan, puis on veut perpétuer la tradition. C'est important, c'est là, socialement, qu'on se voit le plus et on veut en profiter. C'est un rapprochement, on voit ceux qu'on aime, on voit ceux qu'on devrait voir peut-être plus souvent, puis on est content d'avoir une occasion qui nous amène à passer du temps avec nos êtres chers. Pour plusieurs, Noël est une course! Il faut se dépêcher, hein? Sylvie est sortie hier, puis il y avait du monde partout, puis je pense qu'on était sortis ensemble vendredi, puis on est allé au Costco. Puis, hey, il faut s'arranger pour arriver en même temps que tout le monde, le 24 au soir, puis que tout soit fait. La nourriture, les cadeaux, emballés, la nourriture cuite, puis prête à être mise sur la table. Une course, hein? Faire tout ce qu'il fallait avant le 24 au soir. Pour d'autres, c'est un temps de repos. Plusieurs ont une ou deux semaines et on voyait ça à la télévision qu'il y en a qui ont dit non, on a notre voyage, on va à une destination soleil, on va avoir les pieds dans le sable, puis on y va quand même. Donc, plusieurs ont une ou deux semaines, la grande majorité, on a quelques jours de congé. Donc, c'est une coupure psychologique qui coupe l'hiver en deux. Donc, c'est ce que représente Noël pour les Québécois. C'est le sens qu'ils y donnent. On va prendre la prochaine image. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. Hein, c'est ça, le transfert fait que... Êtes-vous capable de lire? Ouais, vous avez des bons yeux. Donc... Vous pouvez compléter là, ou encore, je vais vous le lire. Il y a deux ans, le 24 décembre 2019, il y avait un article dans le Journal de Montréal écrit par Mathieu Bock-Côté, hein, qui est un journaliste très connu, auteur, sociologue, philosophe, qui passe beaucoup de temps maintenant en France parce qu'il est comme une vedette québécoise là-bas avec son franc-parler rapide. Et voici ce qu'il avait. On va prendre le temps de le lire. Vous allez voir, c'est pas très long. Donc, vous lisez ou vous écoutez comme vous voulez. Il écrivait, et le titre, c'était « La figure du Christ ». On en vient parfois à l'oublier, tellement le sens des origines et du sacré nous fait défaut. Mais Noël, avant toute chose, marque la naissance de Jésus-Christ. Son existence historique est généralement reconnue. Qu'il s'agisse ou non du Fils de Dieu, qu'il ait accompli des miracles et qu'il soit revenu parmi les hommes après la résurrection, est une toute autre histoire qui relève de la foi. Il n'empêche, et c'est une chose importante, que pendant près de deux millénaires, notre civilisation y a cru et a été transformée par cette croyance. Noël. Il s'agit d'une magnifique histoire. Le christianisme représentera la plus grande révolution religieuse de tous les temps. Hey, merveilleux! Donc, c'est la magie de Noël! Tout est possible le jour de Noël et avec Jésus, les 364 autres jours aussi. Wow! Comme ça, là, vous voyez bien. Excellent. Donc, le christianisme représentera la plus grande révolution religieuse de tous les temps. En offrant son Fils au monde, Dieu se présente à nous sur le signe de la faiblesse, dans le plus extrême dénuement. Il épouse la condition des hommes pour les sauver. Prochaine image. Non, mais ça... Quant à avoir la belle image, on va prendre quelques secondes que vous suiviez. Depuis deux millénaires, des hommes ont cru en la parole du Christ et ont cherché, comme ils l'ont pu, à améliorer ce monde dans la promesse d'un au-delà censé réconcilier, merci, les êtres sous le signe d'une félicité éternelle. Noël, chaque année, permet de méditer à son sujet. La culture populaire en est encore imprégnée. Il écrivait Jésus dans l'article, dernier paragraphe. Il n'est pas facile d'avoir la foi. Elle se dérobe aux modernes que nous sommes. D'autant que nous ne savons pas vraiment ce que croire veut dire. Pourtant, ce soir, nous serons nombreux, pendant quelques instants, à méditer cette histoire, sans trop savoir qu'en penser, mais en espérant, au fond de nous-mêmes, que d'une manière ou d'une autre, quelque chose dans tout cela soit un peu vrai. Quand j'ai lu cet article-là, il y a 2 ans, j'ai fait « Wow! » Quand j'ai lu ça, j'ai fait en dedans de moi, wow, un intellectuel, penseur cartésien que je croyais de toute façon athée, là, je ne connaissais pas personnellement, qui semble vouloir croire. Ce journaliste qui s'expose à Mathieu Bock-Côté, là, il est lu par, on peut dire, des millions de Québécois qui étaient soit sur le Journal de Montréal, sur Internet ou qui ont relu cet article-là, des millions de Québécois qui lisent ce journaliste-là qui, en reconnaissant l'impact incroyable du christianisme et qui se dit qu'en cette veille de Noël, que ça vaut la peine de prendre le temps de réfléchir pour se demander s'il n'y aurait pas du vrai dans tout ça. C'est certain que, comme croyant, on lit ça et on se dit, écoute, ça, il y a bien trop de doutes. Puis, et il dit, la foi, ça semble être dur. Mais moi, ça m'a vraiment touché. Et ça me donne le goût d'aller voir dans la parole de Dieu pour avoir les réponses quant à l'authenticité de Noël. Et tout de suite, quand j'ai lu, pendant même que je lisais, il y avait un verset qui me revenait. C'était 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Hein? Pour moi, ça disait, oui, je comprends que les gens diraient, écoute, c'est-tu vrai? Y a-tu une part de vrai, puis une part d'imaginaire, de légende? Mais moi, ce verset me revenait. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc, première idée qui me venait, c'est que c'est digne de confiance, que c'est vraiment arrivé. On peut faire plus qu'espérer qu'il y ait une petite partie de vrai dans tout ça. Depuis plus de 2000 ans, dans le passé, avant la naissance de Jésus, dans l'Ancien Testament, il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de prophéties spéciales. Il était annoncé qu'un roi allait venir, qui était le Messie, qui allait sortir d'Israël, qui allait se présenter à son peuple. Et Jésus est venu, et sa naissance fut miraculeuse. Sa naissance a eu lieu à Bethléem, la petite ville, ce qui était annoncé 1000 ans avant. Les anges sont intervenus pour en faire l'annonce à Marie, à Joseph, aux mages, aux bergers. La main de Dieu le Père était sur son Fils bien-aimé. Le Fils de Dieu qui allait revêtir la nature humaine pour se qualifier, pour être le sauveur de cette humanité. Les quatre évangiles et tout le Nouveau Testament nous racontent en détail cet événement extraordinaire. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu qui vient parmi les êtres humains. C'est certain. C'est ma conviction, c'est la conviction que nous donne la parole de Dieu. C'est certain que Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans. Et c'est certain qu'il était Dieu. Et pour chacun de nous qui voulons trouver le vrai sens de Noël, c'est la première chose à croire. C'est tellement important. C'est certain. Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas une légende. Il est vrai. Il est réel. Il était au ciel, il est descendu sur la terre et il est mort, ressuscité pour nous sauver. Il est retourné au ciel d'où il voit tous les habitants de la terre. C'est pour ça que Noël prend toute son importance, parce que le monde reçoit la venue du Sauveur. L'apôtre Jean, qui écrit les évangiles, l'Apocalypse et les épîtres. L'apôtre Jean, un témoin visuel, lui, le disciple que Jésus aimait, lui qui n'avait pas peur dans les moments intenses d'aller se rapprocher de Jésus, puis Jésus qui l'accueillait, lui pouvait dire, « Et nous, nous avons vu, on l'a vu de nos yeux, et nous attestons, on peut faire une déclaration officielle, on atteste que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Et dans 1 Jean, il dit « Ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce qu'on a contemplé, la gloire venue de Dieu, Jésus. » Et un des aspects les plus frappants pour moi de l'article de Mathieu Bock-Côté, c'est qu'il invitait ses lecteurs à prêter attention à Noël, à Jésus, à sa naissance et même à un peu plus. Hein. Il dit, prêtez attention quand vous allez être le 24 au soir, là, vous allez avoir un moment de tranquillité. Là. Minuit arrive, c'est le moment qu'on souligne la naissance de Jésus. Il dit, prenez un temps pour arrêter, pour penser à l'éventualité qu'il y aurait du vrai. Comme pour dire, passez pas à côté de quelque chose de grand, d'important, de crucial, au cas où ce soit vrai. Et pour écrire ces choses et s'afficher publiquement comme ça, on soupçonne que l'auteur lui-même a fait cette réflexion avec une ouverture d'esprit à la recherche de la vérité. Ce qui place chaque personne devant Noël et Jésus. Et chacun a besoin de répondre, de se positionner. Et c'est ce qui est arrivé dans le prochain passage qu'on va voir exactement, parfait. Donc, dans ce passage, à l'annonce des mages, les mages, comme l'a bien dit Sébastien, les mages étaient des hommes qui observaient les étoiles. C'était des astronomes. Mais du côté social aussi, c'était des gens qui étaient des chercheurs. C'était des sages qui étaient à l'affût de la découverte, de la vérité. Il voulait connaître, il voulait découvrir. Et selon leurs attentes, ils attendaient un roi, selon toutes les informations qu'ils avaient eues, un roi qui allait bouleverser le monde. Et ces mages, hein, il faut se le rappeler, ils ont fait un bon 1500, 2000 kilomètres pour voir Jésus. Ces mages qui étaient des païens, dans le sens qu'ils étaient des non-juifs, ils n'étaient pas de la nation d'Israël, observaient les étoiles. C'était des gens qui ne connaissaient pas l'Éternel, le seul vrai Dieu. Mais eux, ils sont venus pour rendre hommage, pour adorer ce Jésus qu'ils ne connaissaient pas encore parce qu'ils savaient qu'il en était digne. On va lire les versets 1 et 2 de Matthieu 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Tellement frappant. Quand ils sont arrivés dans la grande capitale, la grande ville, Jérusalem, ils n'ont pas demandé, « Êtes-vous au courant? Saviez-vous que selon nos données, c'est pas mal le temps que le Messie, un roi tout à fait unique, avez-vous des informations là-dessus? » C'est pas ce qu'ils ont demandé. Ils ont dit, « Où est-il? » On arrive, ils doivent tout être au courant, ils doivent en train d'être auprès de l'enfant nouveau-né, du futur roi. Ils ont dit, « Où est-il? Où est-ce qu'il est? Vous devez le savoir plus que nous. » Les mages s'attendaient. Est-ce que ceux qui étaient sur place, eux, ils ont fait 2000 kilomètres en chameau, ils s'attendaient que tout le monde allait être au courant de ce grand événement puis qu'ils se seraient déjà déplacés. La réaction et les actions des mages resplendissent encore davantage quand on le compare aux habitants de Jérusalem, quand on le compare à la réaction des scribes et des pharisiens et quand on le compare encore plus à la réaction du roi Hérode. On va lire les versets 3 à 8. Le roi Hérode, ayant appris cela, où est le roi des Juifs qui vient de naître, on a vu son étoile, on est venu pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que moi aussi j'aille l'adorer. » La réponse. Quand Matthieu Bock-Côté a écrit son article, il était un peu comme un mage moderne qui venait puis qui attirait l'attention puis qui disait à tout le monde, « Hey, ça vaudrait-tu pas la peine de jeter le regard sur Jésus, sur Noël, sur la venue du Sauveur, il me semble qu'il y a quelque chose d'important. » Et dans la société, tout le monde devait répondre. Et c'est ce que les mages ont fait. Et là, on a différentes catégories de personnes. La première qu'on veut voir, c'est les habitants de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem, c'était vraiment monsieur tout le monde dans la société. Ça dit qu'ils furent troublés en entendant la nouvelle de la naissance du roi des Juifs. Mais aucun n'a pris la peine de le chercher pour aller le voir. Et pourtant, je ne sais pas, j'ai fait un voyage en Israël. Est-ce qu'il y en a qui ont fait un voyage en Israël? Jérusalem, on va dire le point le plus loin de Jérusalem, se rendre à Bethléem, c'est combien? 5 à 8 kilomètres, là, si tu prends le plus loin, entre 5 et 8 kilomètres. C'est collé, c'est juste à côté. C'est la petite ville sans importance, à côté de la grosse Jérusalem. Hein? C'est pour ça que même la prophétie disait, t'es pas la moindre. En importance, en grosseur, t'es pas la moindre, mais il va se passer quelque chose de tellement important chez toi. Aucun n'a pris la peine de le chercher. Aucun ne s'est déplacé. Les habitants de Jérusalem, ils en ont entendu parler, hein, un peu comme on a entendu jeudi une nouvelle, tu sais, puis on entend différentes nouvelles, puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive deux, trois jours après, on passe à autre chose, puis il y a d'autres nouvelles, puis on oublie ça. Ça a été une rumeur. Ils en ont parlé, ils en ont discuté, ça a alimenté les conversations, mais après, au bout de quelques jours, hein, on oublie, puis la vie continue. L'Évangile de Jean, en parlant de la lumière qui est Jésus, qui est venu chez les siens, elle dit, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. » Pas d'intérêt, pas de souci, pas de considération, pas « Hey! » David, Samuel, tous les prophètes ont annoncé le Messie, puis il y a quelqu'un qui nous dit que c'est là, c'est maintenant, puis qui est juste à côté. Ils ont été troublés, mais ils ont passé à d'autres choses. Ensuite, comme autre personnage, les principaux sacrificateurs et les scribes, hein, eux, c'était les gardiens et les enseignants de la parole de Dieu. C'était les experts de tout l'Ancien Testament. Ils connaissaient ça du bout des doigts. Et quand Hérode leur a demandé des informations, ils ont tout de suite dit, « Hey, c'est clair, s'il parle du Messie, le Messie, c'est à Bethléem parce que c'est écrit à tel endroit. » Eux, ils n'ont même pas pris la peine de se déplacer pour vérifier. Eux, les défenseurs de l'exactitude de l'Ancien Testament. C'est incroyable, hein? La plus grande prophétie de la Bible, ils se font dire que c'est en train de s'accomplir. Dieu parmi nous, Emmanuel, et ces hommes de la parole de Dieu ne se déplacent même pas. Hérode, notre cher Hérode, ce roi méchant, implacable, hein, sans scrupules, lui aussi il était troublé, hein? Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Il n'a pas été troublé pour la même raison que monsieur tout le monde dans la société. Hérode est un roi. Quand il entend parler qu'un roi naît, là, même s'il est petit, là, c'est un danger. Fait qu'est-ce qu'un roi sans scrupules fait quand il se sent menacé par un autre roi? Ben, dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet pour savoir que tous les autres pays seraient offusqués de ça. On va s'en débarrasser pendant qu'il est petit. Et son hypocrisie, hein, qui fait semblant de... Faites-le-moi savoir quand vous l'aurez trouvé. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Non, il voulait le tuer, littéralement. Personne ne s'en soucie pour l'adorer. Personne ne s'en soucie pour dire quel moment éternel dans l'histoire de l'humanité Dieu fait homme. On a les bergers qui, à l'exemple des mages, se sont déplacés. Et les bergers, c'est là qui est tellement frappant. Si tu passes ta nuit à l'entour du 25 décembre, autour du feu, à surveiller les brebis, là, c'est parce que tu n'as pas un job très élevé dans la société. Là. Tu fais un peu ce que personne veut faire parce que c'est exigeant, c'est froid, c'est un travail là, harassant où tu luttes avec le sommeil. Mais eux, Dieu leur a fait la grâce d'envoyer les anges. Ce spectacle, gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Et les bergers sont allés en hâte et ils ont glorifié Dieu puis ils ont loué Dieu de ce qu'ils ont vu en voyant Jésus. La réaction des mages est belle et étonnante. Ils ont franchi quelques milliers de kilomètres en suivant son étoile. Et pour nous, où est-ce qu'on se situe? En 2021, dans la population du Québec, chacun est en train de donner sa réponse personnelle. Il y en a qui peuvent avoir de l'hostilité envers Jésus. Il y en a qui peuvent avoir de l'indifférence. Il y en a qui peuvent dire, « Ben écoute, j'ai d'autres choses à faire » ou « C'est une vieille histoire, ça ramène-nous pas quelque chose que nos parents nous racontaient et qu'on entendait à petite école. » Chacun est en train de donner sa réponse. Il y a des gens qui sont extrêmement connaissants, des gens qui sont religieux, qui disent, oui, je connais tout ça, là, je l'enseigne, moi, la Bible, mais qui ne sont pas capables de reconnaître les vérités grandes, belles et profondes. La réponse adéquate pour chacun des Québécois, c'est qu'aucun effort, aucune énergie n'est trop grande pour connaître Jésus. La réponse adéquate, c'est de dire, écoute, oui, Monsieur Boccoté, vous attirez mon attention, mais écoute, c'est... Ce que je veux, c'est le vrai Jésus, pas une petite partie. Je ne veux pas des doutes, je veux des certitudes. Je ne veux pas juste me demander, réfléchir quelques instants, à me dire, ça se pourrait-tu qu'il y ait un petit peu de quelque chose de vrai, tu sais, puis de décider pour moi personnellement, Noël, voici ce que je prends, puis le reste, Jésus, on le prend au complet ou on le prend pas du tout. On veut aller vers le but de Noël, le sens. Quel est le sens de la venue de Jésus? Et pour connaître le vrai sens, ça nous prend des informations, des datas, des données. Ça nous prend la connaissance. Il faut qu'on se rappelle, rappelez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. C'est quoi le contenu de Noël? Premièrement, il est venu pour apporter la paix. Et ça, les gens dans le monde entier, les gens dans la société québécoise le reconnaissent bien. Mais il est plus que venu apporter une ambiance de paix, de bonté, où on a plus le cœur sur la main pendant un petit deux semaines. On va regarder quelques versets. Ésaïe 9, 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » On continue dans Luc 2, 13. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. » Jésus par sa venue, il apporte la paix. Il a un message de paix. Sa personne était pacifique. Et Jésus est venu pour que l'homme puisse faire la paix avec Dieu et pour qu'il y ait plus de paix sur la terre entre les hommes. Bien des fois, on entendait ça quand il y avait des guerres qui avaient lieu pendant, pendant la période de Noël. Il mettait une brèche, une pause de 24 heures pour dire on ne fera pas la guerre, on ne tuera pas des gens en cette journée. Dans Luc 1, 78, vous l'avez ici, Zacharie qui était le père de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui est né 6 mois avant Jésus, et Zacharie a eu la bouche fermée parce qu'il n'a pas cru. Et quand il a ouvert la bouche, il n'a pas dit n'importe quoi. Hein. Voici ce que Zacharie, rempli du Saint-Esprit, a prophétisé. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ça, c'est ce que vont faire les entrailles de miséricorde de Dieu qui donne son Fils Jésus pour le salut. Ça va diriger vers les chemins de la paix. Jésus est venu apporter une paix du cœur pour ceux qui le reçoivent, une paix de réconciliation, une ambiance, une attitude où on cherche à faire du bien à notre prochain, à être tolérant. C'est les valeurs, c'est ce que Jésus a apporté avec sa venue. Jésus également est venu pour nous enseigner la vérité. Notre ami Bocoté, un homme connaissant avec des capacités intellectuelles, il dit, c'est pour nous modernes, ça relève du domaine de la foi et on ne sait plus trop comment croire à notre époque, puis c'est dur de départager le vrai du faux. Dans le fond, il manque des informations pertinentes et dignes de confiance. Mais la parole de Dieu nous les donne. Nicodème, quand il s'est adressé de nuit à Jésus, il lui a dit, « Tu es un docteur venu de Dieu. » Il dit, « Toi, tu es un didascalos, hein, tu es un enseignant, tu es celui qui va nous faire connaître les choses. » La Samaritaine hein, qui disait du Messie, après avoir parlé un peu avec Jésus, elle a dit, le Messie, quand il sera venu, une Samaritaine, même pas une vraie juive, mais elle disait, quand il sera venu, le Messie, il nous annoncera toutes choses. La parole nous dit que Jésus allait, par sa venue, nous éclairer, nous donner l'heure juste, nous donner des vérités sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer. Jésus lui-même, en Jean 18, 37, disait, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Il était venu pour dire la vérité, pour rendre témoignage, et lui-même dans sa personne, il était la vérité. La vérité, c'est qu'avant la venue de Jésus, spirituellement, le monde entier était dans les ténèbres. Et quand tu es dans les ténèbres, il y a des réalités autour de toi qui sont là, qui sont présentes, mais tu ne les vois pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Quand on fait du plein air, hein, dernièrement, j'étais allé monter une montagne, puis on est revenu trop tard, et on a descendu dans la noirceur avec notre petite lampe. Là. Et je te dis que la petite lumière qu'on avait, là, elle était précieuse. Bien, Jésus, lui, il est venu faire la lumière. Tout ce qui était, tout ce qu'on ne voyait pas, tout ce qu'on ne comprenait pas, lui, il a fait connaître, il a été un révélateur des vérités de Dieu. En Luc 2, 32, hein, ça dit qu'il est la lumière pour éclairer les nations. Ensuite, Matthieu 4, 16, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Jésus est celui qui nous fait connaître. Et les gens ne veulent pas aller à Jésus parce que les vérités sont trop frappantes. La lumière brille trop fort. Et une fois que tu as vu la lumière, puis que tes yeux sont ouverts, tu ne peux pas juste retourner à dire, « Ah, je vais vivre comme avant, je vais vivre ma petite vie. La vérité, les informations sont trop concluantes. » Et Jésus disait que je suis venu comme une lumière dans le monde. Donc, par la venue de Jésus à sa naissance, il a laissé couler 30 ans avant que son ministère public commence, mais Jésus est venu pour faire connaître la vérité. Qu'est-ce qu'on en fait de cette vérité-là? Des fois, il y a des informations qui peuvent être trop grandes de dire, écoute, j'aime mieux pas le savoir parce que je ne saurais pas quoi faire avec. Les informations sur les grandes questions de la vie, d'où on vient, où on va, est-ce qu'il y a un sens à la vie? Est-ce qu'on est juste un paquet de molécules bien coordonnées, bien structurées pour un temps, puis qu'après ça, ça lâche tout? Est-ce qu'on a une âme? Est-ce qu'on est différent d'une mouche, d'un maringouin, ou on est dans la même catégorie d'êtres vivants c'est juste qu'on est plus conscient? D'où vient le fait qu'on est capable d'avoir un tel amour pour nos proches, donner notre vie, d'avoir des sentiments de bonté, de bienveillance envers nos proches, envers nos enfants? D'où ça vient, ça? D'où vient l'amour? D'où vient la haine? Jésus nous donne les réponses. Il nous dit qu'on est créé à son image, qu'on est capable d'avoir la volonté, on est capable d'avoir des sentiments, d'éprouver, de ressentir cet amour-là qui vient de Dieu. Jésus est venu pour enseigner. Et Jésus est venu, évidemment, pour nous sauver. Quelques versets. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Jésus disait, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner ma vie en rançon pour plusieurs. L'ange a dit à Joseph que sa fiancée, Marie, qu'elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, hein, qui est Yeshua, qui veut dire tout simplement sauveur. Et l'ange a continué pour donner le sens en disant, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est pour ça que tu vas l'appeler Jésus, parce que Jésus, ça veut dire sauveur. Dans l'évangile de Luc, c'est l'ange qui parle à Marie et qui lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, fils du Dieu très haut. Il continue en disant, « Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Marie, elle entend tout ça. Elle est bouleversée. L'ange qui fait la révélation, mais son cœur déborde et elle accepte cette grâce qui lui est faite. Et Marie répond, « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Elle était capable par elle-même de déduire que le saint enfant qui allait naître de moi va être le sauveur de l'humanité. Ça va être lui, le Messie. Un peu plus loin, hein, on voit qu'un ange est allé annoncer aux bergers, « Ne craignez point que je vous annonce une bonne nouvelle. » C'est quoi la bonne nouvelle? Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On a vu au début, le verset, c'est une parole certaine. et entièrement digne d'être su que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Oui, c'est vrai que c'est des grandes vérités. C'est des vérités qui bouleversent ta vie. Pour moi, à l'âge de 22 ans, j'ai entendu cette vérité-là. Et quand je l'ai entendue, on ne se garoche pas dans quelque chose qui va bouleverser et transformer ta vie sans réfléchir. Et j'ai lu, j'ai pensé, j'ai évalué, j'ai cherché à connaître pendant un bon 6 à 8 mois, mais je suis arrivé au point où j'ai dit, ça, c'est la vérité. Et je veux faire de Jésus mon sauveur. J'ai cru que c'était digne de confiance. Et non seulement c'était digne de confiance qu'on pouvait se fier, mais c'était digne d'être reçu. Et pour moi, j'étais arrivé à un point où je me disais, hey, c'est impossible, ce serait une folie que de ne pas accepter ce Sauveur Jésus qui répond à mes questions, qui met à la bonne place toutes les vérités que j'avais entendues dans mon enfance jusqu'à l'âge de 22 ans. Et c'est là que j'ai dit oui à Jésus. Les choses les plus complexes dans la vie sont souvent les plus simples. Et Jésus a dit que si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Il y a des vérités complexes à faire des thèses de doctorat sur la parole de Dieu. Mais les plus grandes vérités sont les plus simples. Jésus est le Sauveur. Il est le Fils de Dieu. Il est venu vers nous parce que nous, on ne pouvait pas aller à lui. Et Noël a un message précis. Un Sauveur nous est né et à nous est mis, nous sommes mis devant le choix de dire qu'est-ce que je fais avec ce Sauveur. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que pour chacun d'entre nous, Jésus peut devenir notre Sauveur. On peut juste se tourner vers lui. Et on a besoin d'examiner notre cœur. Mon cœur, il est où face à Jésus? Est-ce que comme les habitants de Jérusalem, j'entends ça, mais je retourne, puis j'ai plein de choses à faire? Indifférence, insouciance, ne pas voir la valeur des choses. Est-ce qu'on a une hostilité contre tout ce qui est religieux? Est-ce qu'on se croit supérieur en intelligence, en capacité? On dit ça une petite fois comme ça, c'est enfantin, c'est pour les simples. Moi, je suis plus intelligent que ça. C'était les sacrificateurs puis les scribes qui avaient cette pensée-là. On peut se réjouir. Peu importe la façon qu'on va souligner Noël et peu importe le nombre de personnes qu'on va avoir, peu importe nos circonstances avec certaines limites, les belles et grandes vérités de Noël vont demeurer les mêmes. Et on peut faire plus, tellement plus que d'espérer qu'il y ait un petit peu de vrai dans ça. On peut avoir des certitudes. On peut avoir confiance et on peut se tourner vers Jésus pour être sauvé. Et pour nous, pour ceux qui ont déjà fait ce choix-là, on peut avoir la joie d'avoir reçu Jésus. Dans tous les soucis de la vie, dans les déceptions, il y a une chose qui demeure notre trésor. Un trésor présent, un trésor éternel. Jésus est mon sauveur. Je l'ai reçu. Il s'est révélé à moi. Il a frappé à la porte de mon cœur. Je l'ai reçu. Puis ça, peu importe ce qui m'arrive, c'est mon plus grand trésor. Puis quand c'est le moment de célébrer mon sauveur, j'ai cette chance d'avoir les yeux ouverts, d'avoir vu la lumière et de mettre encore ma confiance en Jésus. Pour nous, Jésus peut être une source de paix et de joie. On peut se tourner vers lui. On peut se remémorer la grandeur de ce qu'il a fait. Et je ne sais pas combien de Noël vous avez célébré depuis que vous avez rencontré, connu personnellement Jésus. Mais la vérité est aussi grande. Hein? C'est à notre cœur à se dire, écoute, là, on met un temps à part, on se concentre et nous aussi, on veut encore être des adorateurs de Jésus. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, comme on veut te louer, on veut être comme les mages, on veut être comme les bergers qui viennent auprès de toi. Toi, le petit enfant, toi, Jésus, qui a grandi, toi, Jésus, qui a enseigné, fait du bien, où tu as révélé le Père, et toi, Jésus, qui est mort sur la croix, toi, Jésus, qui est ressuscité, toi, Jésus, qui règne présentement, toi, Jésus, qui est venu et qui va revenir. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, que par ta venue, tu as établi une ère de grâce où tu donnes encore la chance à tous de venir à toi. Seigneur Jésus, oui, on veut te prier pour ces millions de Québécois afin que tu suscites en eux cette lumière, cette étincelle où ils se demandent qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ça? Comment je peux faire pour m'approprier ces vérités qui m'attirent, qui m'interpellent? Seigneur Jésus, on te prie que encore en cette année 2021, que tu sois le Sauveur. Tu es digne de confiance et tu es digne d'être reçu. Tu es digne d'être cru, Jésus. À toi la gloire. Amen.